dans la matinée, essayé de nous familiariser avec une triade, avec une dialectique qui nous vient de la tradition juive et qui est passée dans la tradition chrétienne, et que certains philosophes m'ont dit, ça manque aujourd'hui dans la philosophie, où tout tend vers un dualisme, vers des solutions binaires, vers des polarisations, comme on voit dans la politique, etc. Donc la troisième colonne, qui est celle de la sagesse, qui intègre les polarités, manque. Après ça, nous avons essayé la troisième colonne, pas dans l'ordre, mais la troisième colonne dans la philosophie de la triade. Après ça, nous avons essayé d'entrer dans la première colonne, l'étude de la Torah, pratiquée dans le monde chrétien et monastique depuis des siècles, bien avant les moines même, dans l'art de la lectio divine, expression très ancienne, existant en grec déjà, et reprise en latin. Avec ce mystère, dans l'expression elle-même, qu'on est en train de lire Dieu quand on lit les Écritures. Ce matin, j'aimerais commencer par l'axe de la prière, du culte, et donc de la deuxième colonne. C'est la colonne la plus importante, à bien des égards, pour votre problématique. S'approcher de ce lieu. Bon, Bon, maintenant, pour un tout petit peu cristalliser ça, et à partir d'une maxime que j'ai citée tout à la fin hier, quand tu lis, il te parle. Quand tu pries, tu lui parles. Et ça nous place devant une toute vieille articulation, respiration chrétienne, lire et prier. Lectio oratio. Ça va la main dans la main. Dans la Lectio Divina, normalement, je conclue chaque fois dans la Lectio Divina par un bout de prière, qui est une réponse, qui est une réplique parce que j'ai entendu quelque chose, j'ai perçu quelque chose, j'ai reçu quelque chose. Une lumière m'a traversé dans ma Lectio. Dieu a parlé. Et je réponds. Et ça peut être Kyrie eleison, ça peut être Gloria, ça peut être très très peu, un mot. À toi la gloire, à toi la gloire. Ou ma gratitude. Béni sois-tu, béni sois-tu. Mais il y a une réplique qui vient parce qu'on a reçu, parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu, parce que le don s'est manifesté. Le fond de l'être est don. Nous ne le voyons pas. Aussi, le fond de votre être est don. Vous êtes né pour donner. Être, c'est donner. C'est curieux qu'en allemand, pour dire il y a quelque chose, il y a, on dit es gibt. Cela se donne. Es gibt. De geben qui veut dire donner. L'être est don. Même un angle trahi. Mais le silence le repère. Comme hier, je vous disais, si vous êtes vraiment silencieux, vous réalisez votre respiration. Et si vous suivez de l'intérieur votre respiration, vous découvrez que vous ne l'avez pas en main. Que le passage entre expirer et inspirer vous est donné. Comme une touche. Un maître bouddhiste disait, voilà ce qu'il faut fixer. Cette touche que vous n'avez pas en main. Et qui est la trace que même ma vie la plus vitale, la plus banale, la plus élémentaire et instinctive est de l'ordre du don. Alors la méthode que je propose, que j'ai reçue moi-même, est ce qui s'appelle la méthode de Vigan. Vous avez une feuille spéciale, hier vous avez reçu plusieurs feuilles, et une de ces feuilles, c'est la méthode de Vigan. Vous avez ça sous les yeux? C'était déjà perdu depuis hier, donc, ma mise. Mais donc, c'est acquis. Ça marche. Donc la méthode de Vigan. Vous avez donc reçu 3-4 feuilles qui sont toutes des coups de main pour lire la Bible, disons, abondamment. Et il y en a une, par exemple, sur Saint Paul. Comment lire tout Saint Paul en un mois? Ça, c'est intéressant, parce que Saint Paul, nous ne lisons qu'en tout petits morceaux, et quand on lit Saint Paul en petits morceaux, on ne comprend rien. Si vous lisez Paul dans des grands enjambées, vous comprenez tout. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai lu Paul en grands enjambées. Je n'ai jamais trouvé Paul difficile. Après, j'ai étudié, alors j'ai trouvé qu'il était difficile. Mais avant d'étudier, je le comprenais. C'est drôle que ça marche comme ça, parfois. Mais il faut le lire en grands enjambées. Pourquoi? Parce que c'est un esprit dialecticien. Je vous donne un exemple. La circoncision sans importance. Être incirconcis sans importance. Ce qui importe, c'est d'être une création nouvelle. Qu'est-ce qu'on nous fait dans la liturgie? On coupe ça. Mais c'est trois marches. Une, deux, trois. Et le trois n'a de sens que si j'ai bien écouté. Une, deux, trois. Alors vous allez couper ça en trois morceaux. On vous dit, la circoncision est sans intérêt. l'opposition est sans intérêt. Les deux ensemble sont intéressantes. Que je puisse dire que l'un est sans intérêt et l'autre est sans intérêt. Parce que je pourrais croire la circoncision est sans intérêt, donc un circoncis, c'est important. Mais non, ni l'un, ni l'autre. Ce qui est important, c'est d'être une création nouvelle. Et Paul emploie un chapitre pour dire l'un, un chapitre pour dire l'autre, et puis il vous conduit au-delà. Si j'ai les trois ensemble, ça fait sens. Si je coupe en salami les trois morceaux, je ne comprends plus de quoi il parle. Je n'avance pas. Je ne suis pas dans son mouvement. Et donc, Paul est tout le temps comme ça. C'est un esprit, disons, en balance, en dialogue intérieur et extérieur. Parce qu'il a des partenaires qui sont chaudement pour la circoncision. Il y a des gens qui sont chaudement contre. Et il va essayer de les prendre tous les deux en disant, de quoi est-ce que vous nous parlez en tant que chrétien? Pourquoi est-ce que Saint Paul est important? C'est le grand penseur du Nouveau Testament, le plus grand. Et le plus ancien. Tout le Nouveau Testament arrive après Saint Paul. Enlevez les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul sont écrites entre 50 et 62. Le reste du Nouveau Testament est écrit après 70. Donc le noyau le plus fondamental, ce sont les 7 ou 8 lettres authentiques de Saint Paul. Et il faut les lire. Et une fois par an, vous devriez les lire toutes, pendant un mois. Et je vous donne un petit schéma. 2 ou 3 chapitres par jour, et en un mois, vous avez un bain dans Saint Paul. Et on est toujours renouvelé quand on a fait un bain dans Saint Paul. Voilà. L'autre, c'est les 4 évangiles, c'est pratique, et c'est une invitation à une fois, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça tout le temps, mais une fois, ça, j'oublie tout, je ne sais plus où j'en suis, je commence. Avec Marc, puisque c'est le plus ancien, puis Matthieu, puis Luc, et puis Jean, pour clôturer. Et en 40 jours, faites ça au début du carême, faites ça, il y a plusieurs périodes de 40 jours, hein, dans toute l'année liturgique. Entre le 15 août et entre la transfiguration, hein, le 6 août, et la croix, le 14 septembre, vous avez 50 jours. Entre Noël et la chandeleur, vous avez 40 jours. Pas seulement les 40 jours avant Pâques, ou les 50 jours, hein, 40 jours jusqu'à l'Ascension. Il y en a tout plein, toute l'année. Saint-Martin, patron de la Gaule, c'était le moment où commençait le carême des Gaulois. Les Gaulois étaient un peu plus sérieux que les Romains, ils commençaient leur carême à 40 jours. Après la Saint-Martin, on tuait le veau gras, le cochon, on emmagasinait pour l'hiver avec du sel, tout ce qu'il fallait. Et on commençait alors un jeûne jusqu'à Noël, 40 jours. Donc, le 11 novembre jusqu'au 25 décembre, vous avez 40 jours, dans les dimanches. Donc, il y en a tout plein. Hein? Alors, dans une période de 40 jours, il y a moyen de mettre Saint Paul ou de mettre les 4 évangiles, et vous respirez une fois autrement. Maintenant, la méthode de Vigan. Vigan, ça vient des Philippines. C'est une ville en Philippines, et leur méthode a été construite comme ça autour de l'année 78-79, peu après la mort de Jean-Paul I. Ce n'est pas une faute de frappe dans le texte, c'est donc un souvenir de ce pape qui n'a eu que 30 jours, je crois, pour régner. Hein? Pour autant qu'un pape règne aujourd'hui, on a encore plus de questions autour de ce règne. Quoi qu'il en soit, la méthode de Vigan a été mise au point par une bénédictine et par un spiritain allemand. La bénédictine était philippine, hein, elle est devenue abbesse d'un monastère, une matrone assez impressionnante, large, physiquement et spirituellement. Et cette méthode est archi simple et destinée à des petits groupes. 6, 3, 5, si vous êtes 10, faites 2 groupes. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes de dynamique de groupe et qu'est-ce qui va guider ce groupe, etc. Chacun, à tour de rôle, peut prendre la relève. On commence par une invocation, une courte prière. La plus courte que je connaisse et la plus adéquate, c'est celle de Samuel, le petit Samuel. Il entend le Seigneur parler alors que Dieu ne parlait plus depuis combien de temps. Et le vieux prêtre décanant, brusquement, à la troisième fois, se dit, mais si c'était Dieu qui parlait. Alors, il lui donne la clé, tout décanant qu'il est, et après il va recevoir sa tartine en pleine figure. Ce prêtre Élie, hein, toute sa génération va être condamnée et son sanctuaire va être abandonné. C'est ce que le petit Samuel va lui dire en sortant de la nuit. Ça, on ne lit jamais en église. On lit qu'il va se dormir trois fois et que trois fois il se réveille. Jusqu'à la quatrième fois, il reçoit la clé. Mais alors, la parole qu'il doit dire n'est jamais entendue dans la liturgie. Alors que c'est, disons, démasquer la situation dépravée du sanctuaire de Silo. Avec un vieux prêtre, plus ou moins physiquement et spirituellement aveugle. Ça arrive. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que reçoit le petit Samuel ? Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Et avec ces quelques mots, nous commençons chaque fois le partage. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Et alors on commence, et on lit le texte qu'on s'est choisi. Si c'est un texte de 10 ou de 5 versets, comme aujourd'hui par exemple, ce n'est que 5 versets, de 27 à 33, ça fait 7 versets pour compter juste, du chapitre 11 de Saint Marc, ça ne dure, tout l'exercice à 5 ou 6 ne dure pas une demi-heure. Donc ça c'est très surprenant, c'est une méthode qui permet de faire beaucoup de choses en peu de temps, au point où vous ne pouvez plus dire on n'a plus le temps de faire un pas. Surtout si vous n'êtes que deux, ça va encore plus court. On commence donc par lire une première fois le texte, et à ce moment-là, le texte reste texte. On ne commence pas tout de suite à se l'approprier, mais on l'écoute et on se laisse frapper par le texte. Et on reçoit une question. La question, au premier tour, c'est « Qu'est-ce qui me frappe ?» comme expression dans ce texte. Alors, chacun note les expressions qui l'ont frappé. Vous vous rappelez le texte de ce matin ? Quelles expressions vous ont frappé ? C'était une discussion sur l'autorité. Par quelle autorité fais-tu cela ? Et quelle était la deuxième question ? L'esprit prophétique. Et à partir de là, il peut agir. peu dommage qu'on coupe l'évangile ici parce que Jésus n'arrête pas là. On pourrait dire c'est des enfants gâtés. Et un dit je ne veux pas répondre, et bien moi je ne réponds pas non plus. Ça sonne un peu comme ça en finale d'évangile. Alors que tout de suite après, Jésus raconte une histoire. Et ça c'est typiquement juif. Et Lévise dit quand un juif ne sait pas quoi répondre, il raconte une histoire. Et l'histoire est importante. On l'aura demain ou après-demain ou lundi, un truc comme ça. On ne sera plus là, donc tenez-vous pour dire la réponse aux deux questions vient dans la parabole. Où Jésus raconte l'histoire des prophètes qui se font tuer les uns après les autres. Et le dernier envoyé n'est pas seulement un prophète, mais il est le Fils. Et le Fils, ils vont mettre le grappin dessus, ils vont l'éliminer, et toute la suite. Donc voilà. Nous avons ratissé. Quels sont les versets qui nous ont frappés? J'en ai rappelé quelques-uns. Bon. On arrive alors au deuxième niveau, la parole. Donc, dans le premier tour, on fait un partage qui consiste simplement à dire les expressions qui m'ont frappé. Par quelle autorité? De qui as-tu reçu? On tenait Jean-Baptiste comme prophète. Voilà trois phrases qu'on peut sortir. Et chacun sort des phrases qui l'ont frappé. Sans commentaire, pour cette thèse, c'est très très difficile. Et plus on va vers le midi, plus c'est difficile. L'agriculture. Il y en a qui n'arrivent pas à ne pas emballer ce qu'ils vont avancer, à ne pas justifier ce qu'ils ont choisi. Donc, qu'est-ce qui m'a frappé des expressions? Mais à la fin du premier tour, on a le même texte déjà ratissé, avec du relief. Il y a des choses qui jaillissent du texte. Et maintenant, vient, et ça c'est le miracle de cette méthode. Qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ce texte? On écoute donc une deuxième fois le texte en entier, et puis, qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ce texte? Ça prend un peu plus de temps. Il a donc tourné le texte vers moi et y découvrir une parole de Dieu vers moi. Le texte doit devenir parole. Et la réponse alors de ce que je vais écrire, c'est le Seigneur me dit Benoît, virgule. Catherine, virgule. Antoine, virgule. Je me laisse interpeller pour éviter la grande tentation que je me mette à commenter le texte en disant « je trouve que ce texte quand même va un peu loin ». Ou bien « moi je ne comprends rien à ce texte, ça ne me dit absolument rien ». Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Non pas « qu'est-ce que toi tu penses sur ce texte ?» Madame, je vais essayer d'écouter ce texte, qu'est-ce que le Seigneur me dit de moi? Si tu ne réponds comme font les autres, si tu ne développes pas un moment de foi, eux ils disent si nous répondons oui, pourquoi n'avez-vous pas cru en nous? Si je ne développe aucune attitude de foi, moi je ne peux pas entrer dans ta vie, je ne peux pas entrer dans ton histoire. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Est-ce que tu es ouvert? Ou est-ce que tu es fermé comme les autres? Si tu te fermes, moi je ne peux rien faire. Moi non plus, je ne te dis rien. Voilà. Je donne un exemple, ça peut partir dans tous les sens, hein, on est absolument libre, mais on se laisse interpeller par la parole. Et puis vient la troisième, le troisième moment, on relit le texte. Et la question est maintenant, quelle est ma réponse à ce que le Seigneur m'a dit? Et ça, c'est une prière. Et ça va tout seul, habituellement. Si j'ai bien entendu, je trouve les mots pour dire merci. Tu m'as réveillé, tu m'as interpellé. Maintenant, je sais que tu veux entrer dans ma vie, que tu veux partager mon histoire. Viens, pas, Maranatha. Vous connaissez. On retombe retombe sur ses pattes, on retombe sur le Maranatha, mais on retombe toujours quelque part sur le rapport fondamental au final. Alors quand on est en petit groupe, on termine ensemble par une prière comme le Notre Père. Et on conclut. Nous faisons ça une fois par mois avec une grande page. Ça prend à peu près 2 heures. Et la grande partie de ce temps-là est passée dans le silence. Alors que généralement un partage biblique, c'est des moments où on bavarde beaucoup, cette méthode est sobre. Il n'y a pas de déballage, il n'y a pas de confidence, et ça permet de continuer longtemps ensemble. J'ai des groupes qui travaillent depuis 20 ans. 20 ans. Donc tous, ils ont rattrapé 20 ans de plus, et personne ne s'ennuie à se retrouver une fois par mois et de prendre une grande page, tout un chapitre, et d'avancer. On a un lectionnaire. Et en 10 années, on a parcouru toute la Bible. Disons, toutes les institutions et toutes les pages principales, parce qu'on a mis ça au point dans le diocèse avec un peu de littérature à l'arrière. Mais la belle chose de cette méthode, c'est que ce n'est pas qu'est-ce que je pense du texte, ou à quoi est-ce que ce texte me fait penser. Alors, vous savez, les gens les plus difficiles à faire introduire dans la méthode, ce sont les prêtres. Parce que eux, quand ils lisent un texte, tout de suite, tac, 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 la machine se met en branle et ils savent ce qu'ils doivent dire pour les autres. Et donc ils commencent toute une homélie, mais Dieu ne fait pas d'homélie dans cet exercice. Dieu dit peut-être un mot ou deux, interroge. Mais eux, ils n'entendent pas ce que le Seigneur leur dit, ils entendent ce qu'ils doivent dire pour les autres. Ils ont sauté une étape. L'étape où Dieu pourrait leur parler à eux-mêmes. Ceci, entre parenthèses, mais c'est significatif d'une préoccupation et d'une manière de vivre la parole de Dieu. Je lis la parole en fonction d'eux. Et non, ici, je lis la parole parce que Dieu est en train de me parler. Il y a donc une base théologique très forte derrière cette méthode, c'est que notre Dieu parle. Notre Dieu biblique parle. En fait, il parle tout le temps, mais nous sommes ailleurs, nous sommes déconnectés. Vous avez tous déconnecté votre GSM, je crois, votre portable, j'espère, je crois. Et donc, personne ne peut vous atteindre. Mais il y a aussi un portable avec Dieu. Et où en est-il? Eh bien, au moins, quand je vais lire la parole de Dieu le matin, je peux, même tout seul, pratiquer cette méthode. Quand je n'ai aucune idée pour une homélie, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds, je prends la méthode. Qu'est-ce que sont les expressions qui me frappent? Je suis tout surpris de ce que je retiens. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ça? Et à partir de là, je prie. Et je renvoie ça dans l'homélie. Je dis, qu'est-ce que l'on a entendu ce matin? Le Seigneur nous a dit, hein, et je prends les textes qui m'ont frappé. Puis je dis, mais qu'est-ce qu'il nous dit à travers ces textes? Et comment est-ce que nous allons réagir et nous engager dans la vie à la lumière de ce que nous avons entendu? Donc, la force de cette méthode, c'est qu'elle rejoint les principes de Cyprien, Jérôme, Ambroise, Augustin, qui tous les quatre, répètent la même petite phrase. Quand tu lis, il te parle. Saint Jérôme dira, quand tu lis à ces saintes femmes, c'est l'époux qui s'entretient avec toi. Quand tu pries, c'est toi qui parles à l'époux. Voilà pour la méthode de Vigal. Et on a un tout petit peu pratiqué, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup plus, mais j'espère que... Et ça vaut la peine de fonder un petit groupe d'amis, 2 ou 3, 5, et de temps en temps, préparer un dimanche ainsi, ça aide. Même dans une famille, même avec un enfant de 12 ans, de 14 ans, qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? L'enfant se réveille et est capable de dire des choses, même en face de son père et de sa mère. Et ça vaut la peine. Ça va? J'ai rassemblé peut-être 6 ou 7 méthodes pour lire la Bible, mais la meilleure que je connaisse, c'est celle-ci. Et je n'ai jamais vu des blocages méthodologiques chez les laïcs. Chez les prêtres, oui, chez les prêtres, mon propre père abbé qui me disait enfin, le Seigneur ne me dit rien. J'avais un petit frisson dans le dos, je n'ai rien interdit, évidemment, de ne pas en rajouter, mais une espèce de résistance à la méthode, parce qu'on n'est plus habitué à se situer devant un Dieu qui parle. Or, au moins, quand on lit sa parole, donnons-lui une chance de s'adresser à nous. C'est ça l'acte de foi qu'il y a en dessous de cette méthode. Bien, ça faisait le joint entre la première colonne et la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est notre prière. Ici, je fais une distinction en trois niveaux. Premier niveau, prier dans l'esprit. Deuxième niveau, prier par le Verbe, par le Fils. Troisième niveau, prier vers le Père.
Qui a pris
appris à prier à la synagogue, chrétien qui prie tout le temps, et vraiment il prie tout le temps, il avoue, en fait, l'art de la prière, nous ne possédons pas. Mais l'esprit se joint à notre esprit et gémit au fond de nous dans des gémissements inénarrables. Ça veut dire non articulés, ne sont pas encore des verbes, ne sont pas encore des paroles. C'est une analyse extraordinaire et qui a donné du fil à retordre à tous les commentateurs. Mais peut-être que vous, grâce à votre prière silencieuse, vous êtes plus près de le comprendre que certains exégètes qui ne font jamais de silence. Parce que ça demande du temps, la pratique du silence. Et le Zen en sait plus que beaucoup d'exégètes de saint Paul. Rejoindre ce gémissement qui habite tout le créé. Pré-verbal. Et se laisser rejoindre par cet esprit qui intercède pour nous. C'est donc qui est bienfaisant, qui tourne tout le réel vers la plénitude que saint Paul nomme la liberté et la gloire des enfants de Dieu. L'expression « la liberté des enfants de Dieu ». Ça vient de saint Paul. Et c'est ce vers quoi tout le créé est tourné, nous également. En fait, il y a au fond de chacun de nous un lieu où le divin et l'humain se touchent. Et ça peut être au niveau de la respiration, dont je vous ai parlé tout à l'heure et hier, et quand vous méditez, c'est très probablement l'endroit le plus sensible où le divin et l'humain se touchent. Quand vous rendez compte que votre respiration vous est donnée. D'autres le situent, toute l'histoire de la spiritualité nous montre qu'on l'a situé un peu partout dans le corps. D'autres le situent au niveau des entrailles. Les entrailles de miséricorde, de compassion, de pitié. C'est un lieu divin. Vous savez que dans la Bible, quand il est question de rachamim, des entrailles de miséricorde, c'est toujours Dieu. C'est pratiquement jamais l'homme. Curieux. Mais donc c'est un lieu où frémit dans l'homme quelque chose de divin. Si je suis pris aux entrailles, comme le Samaritain, il voit quelqu'un d'autre, il est pris aux entrailles et il agit. Il ne réfléchit pas. Il laisse parler ses entrailles et il agit en compassion. Mais ça, c'est un lieu divin au fond de la condition humaine. Lévinas a un beau paragraphe là-dessus dans une de ses lectures talmudiques où il dit « Rachamim, miséricorde, pitié, compassion, ça vient de Rechem. Et Rechem, c'est la matrice, dit-il. Et les rabbins ont défini le Rechem comme un organe qui n'existe qu'en fonction de l'autre de lui-même. Ainsi, les entrailles de miséricorde n'est concernée que par la souffrance de l'autre en face de nous. Le rachamim est vulnérabilité pour l'altérité. Voilà comment un philosophe relie une expression linguistique et lui donne un contenu relationnel de haute qualité. À partir d'une définition des rabbins que Rechem, la matrice, c'est un organe qui n'existe pas pour lui-même, mais seulement pour l'autre de lui-même. Ça donne à réfléchir, et en même temps, ça crée un petit sourire de voir ces rabbins si raffinés dans l'analyse même de certains organes. Une autre faculté, ça c'est Évagre, et toute la tradition qui remonte à Évagre, c'est l'esprit. L'intellect, le nous en grec. Quand l'esprit est dégagé de tout le reste, de toutes les passions, de tous les patères, et qu'il est dans sa propre lumière, il peut voir sa propre lumière. Il voit sa propre luminosité et il est ouvert dans sa pureté à la lumière divine. Dans la tradition d'Aristote, l'intellect est divin. Ce n'est pas seulement humain, il est un lieu divin. Et Évagre assume cela et dit que quand l'intellect est dégagé des sentiments, des passions et de son lien avec son corps et purification ascétique qu'ils doivent accomplir, ils trouvent et se découvrent dans sa propre lumière, et c'est le lieu de Dieu. Et là, Dieu peut entrer et sortir et se manifester. Et c'est le début. La pureté de cœur, dira Cassien à l'école des vagues, c'est le début de la contemplation, c'est-à-dire de la vision de Dieu. Simplement pour vous dire que chacun, quelque part, dans son corps, dans sa constitution, peut être à l'écoute d'un lieu au fond de lui où le divin et l'humain se touchent. Notre mystique flamande, Adewi, disait « Ce qui était humain en moi était divin, et ce qui était de Dieu en moi était humain. » Je ne savais plus les distinguer, je ne savais plus les séparer. Dans votre silence, vous pouvez veiller, disons, à rejoindre cela. Ça suppose un énorme détachement. Dès qu'il y a quelque chose d'obsessif, qu'on est obsédé pour obtenir quelque chose, nous ratons. Et si je me dégage de toute tendance captative dans l'expérience, justement, je vois une espèce de transparence où c'est plus moi qui produis cette transparence, mais où une lumière d'ailleurs vient. Les moines syriens disaient, il y a un stade de la transparence, c'est ce que j'essaye d'obtenir, et puis il y a un stade de la limpidité. Et la limpidité, c'est une lumière qui vient d'ailleurs, qui me rejoint. La transparence, c'est celle que j'essaye de produire en me dégageant. Dans vos exercices de silence, c'est vers cela que nous allons. Pas pour obtenir quelque chose, excepté le grand dégagement. Le grand dégagement. Le reste vient, tôt ou tard. Le moine Thich Nhat Hanh disait le koan, c'est-à-dire la maxime ou la parole mystérieuse, on la met dans le cathlon, dans la terre, et on met la terre sur le feu, et tôt ou tard, l'eau va se mettre à bouillir. Mais personne ne sait, aucun cuisinier sait, maintenant ça y est, non, ça vient. Tôt ou tard, Thich Nhat Hanh disait ça, tôt ou tard, un koan, c'est une parole mystérieuse, difficile, incompréhensible. Ça, c'est le bruit de deux mains. Quel est le bruit d'une main? Je vais écouter, hein. Je vais écouter au-delà de l'écoute. Ben, on met le koan dans la terre, on met la terre sur le feu, on alimente le feu, ça, c'est notre responsabilité, et tôt ou tard, ça va bouillir. Tôt ou tard, ça va donner un sens. Et à ce moment-là, ça y est. On ne sait plus regarder à côté, tellement c'est évident. Voilà donc le premier niveau, le niveau de l'esprit. Ça va? C'est pas le plus facile, mais pour vous autres, je souligne que c'est le plus intéressant. Et donc, vous devez être à demeure dans ce premier niveau, mais avoir aussi dans votre poche certaines clés. Et je puis vous dire, ça c'est pour moi la grandeur de John Maynard. À chaque page de John Maynard, et je ne connais pas beaucoup d'auteurs de tout le XXe siècle, Thomas Merton est dans la même lignée, mais John Maynard, à chaque page, frémit de l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui savent parler sur l'expérience, mais ils sont juste à côté. Et John Maynard parle dans l'expérience. Il est en prise directe. Alors, vous pouvez le suivre très près. Vous pouvez le corser, vous pouvez... il est en touche directe. Et, bon, on sent un homme donc, qui a traversé un paquet de couches de l'expérience et qui, quand il commence à écrire, parce que presque tout ce que nous avons, c'est les 5 dernières années, autorité. De quelle autorité est-ce que tu parles? Il est dans le centre. Ça lui a été donné, c'est le fruit de toute une digestion, il a passé par plusieurs cultures, il est devenu religieux passionniste, il a fait une crise à Rome, il est ressorti, il est arrivé en Indonésie et il s'est redécouvert au pied d'un swami. Quel itinéraire! Et en finale, il est envoyé, parce qu'il était une carrure un peu trop grande dans son monastère à Ealing, il est envoyé aux États-Unis pour diriger tout un collège. Et c'est un enfant, un jeune, qui brusquement réveille toute l'histoire. En lui demandant comment est-ce que je vais faire pour méditer. Et il lui trouve un manuel, un grand manuel très célèbre de Augustin Baker, que les Anglais avaient édité deux, trois fois à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Un très beau volume. Vous pouvez trouver ça dans les bibliothèques. Augustin Baker, qui était un bénédictin, disons, entre l'Angleterre et la France, girovague, qui allait d'un monastère à l'autre pour donner du courage aux moniales et aux frères à une époque de persécution. Augustin Baker. Baker, B-A-K-E-R. Et c'est ce manuel-là qu'il donne. Mais dans ce manuel, il trouve Cassien, le nuage de la connaissance, et il entend, en fait, la méthode qu'il avait reçue du Swami, un Swami indien qu'il avait rencontré. Et donc, ainsi, il a renoué avec cette vieille expérience que, dans sa vie monastique, on lui interdisait de pratiquer. C'est extraordinaire. Il a dû sacrifier sa méthode pour la retrouver après. Pourquoi le monastère, ça sert à quelque chose. À gagner en perdant. Parce qu'il est reconnaissant que son maître de novice lui a interdit de continuer. Quoi qu'il en soit. Donc voilà pour le premier point. Passons maintenant au deuxième point. C'est de prier avec des mots, ce qui suppose une grande confiance dans la parole. Et notre foi biblique et notre foi, disons, philosophique aussi ancienne, occidentale, a un amour de la parole. Nous sommes des philologues amoureux du logos et de sa puissance. Nous le sommes grâce aux philosophes, la philosophie grecque étant un événement du logos. Le logos comme la réalité qui permet de ressaisir tout le réel, grâce au logos. Il y a une lumière dans le logos, une lumière récapitulatrice du réel. Mais nous le sommes encore plus par notre foi biblique, parce que notre Dieu parle, et dès qu'il parle, il introduit la lumière. La première parole de Dieu, c'est « que la lumière soit ». Et c'est vrai dans toute la vie. Une lampe ne se met pas ta parole. Dieu parle et il éclaire. Toute la psychanalyse de Freud est biblique. Que dit Freud? Parle et tu verras clair. Parle et tu entreras dans la lumière. Parce que la parole va créer dans ton chaos, dans ton obscurité, une lumière. Et avec cette lumière, tu pourras avancer. Ceci n'existe pas en Orient. C'est complètement absent. On ne croit pas aux paroles. On croit au corps. On croit au langage corporel. On croit au ventre. We think through the belly. Nous pensons à travers le ventre. Quand un Japonais voulait exprimer quelque chose, il le traduisait par un geste physique. Et j'ai eu des très beaux gestes physiques, par exemple, de prendre un bain, ce qui n'était pas tous les jours, et ce qui arrivait parfois de façon tout à fait surprenante. Je n'étais donc pas toujours très réceptif pour ça. Mais quand, forcé, l'hospitalité fait de nous parfois des otages, et donc on est forcé, et donc on se rend compte que c'est une vraie bénédiction, hein, 40 degrés, tout ce que vous voudrez avant, pendant et après un bain pareil. Je me rappelle un jour, j'avais conduit des moines bouddhistes jusqu'à un monastère dans le Pays-Bas, le soir. On remonte un petit escalier dans le monastère, et un pour me remercier, m'a fait le massage du dos, en me tapant comme ça. C'était sa façon de transmettre. We think through the body et pas à travers des mots. Il y a une méfiance des mots. Par exemple, même le mot dialogue, le dialogue interreligieux, ils n'en veulent pas. Et ça n'a aucune importance. Et donc, quand nous avons visité le monastère, tout ce qui était de l'ordre du langage était zéro. Ou 1,5 sur 10, quelque chose comme ça. Tandis que travailler ensemble, suer ensemble, mendier ensemble, crier ensemble, pleurer ensemble, oui, ça marche. Et surtout, faire silence ensemble. Ça ne trahit pas. Manger ensemble à 14, du riz, et on n'entend rien, mais rien. Et mon confrère trappiste de Orval faisait du bruit avec ses mâchoires, et il se faisait rattraper par le maître de discipline. Pas question de faire du bruit avec tes mâchoires. Même ce bruit-là était interdit. Mais ça crée quelque chose que je n'ai jamais connu dans mon monastère. Mais donc, nous avons une tradition positive par rapport au logos, mais notre culture aujourd'hui est fatiguée, est lassée par la parole. Le discours politique, le discours de réclame, le discours sportif, le discours pédagogique ne parle plus. Disons, nous sommes. En parlant d'une belle expression, Wurtmou, c'est fatigué, lassé de la parole. Et nous sommes peut-être plus près des bouddhistes orientaux par rapport à la parole que des maîtres rabbiniques et patristiques qui, dans la parole, reçoivent la lumière. Et nous devons comme repasser par les poètes. Car les poètes nous donnent, je dirais, la langue à l'état pur. Le langage où le mot peut encore tout dire, a encore toute sa force. Et donc, relire des poèmes et relire la tradition poétique française, que ce soit de Musset ou Verlaine ou Baudelaire ou plus récent, Apollinaire, tu sais, il y en a d'autres, Prévert, mais moi je suis dans la littérature flamande, donc il y a quelques très grands poètes récents chez nous et qui vraiment ouvre des portes au langage et à le sens des mots et de la vie. Notre modèle pour prier par excellence est le psautier. Le psautier qui est une grande dynamique, une montée, une ascension en 5 livres de la prière individuelle à la prière collective. De la lamentation à la louange, de l'isolement à la fête. Et donc il y a une croissance dans ce psautier, et il faudrait retrouver, c'est malheureusement un peu bousillé à travers la redistribution des psaumes dans notre bréviaire depuis le Concile, mais l'ancien bréviaire de Saint-Benoît et de la tradition, c'était de passer par les psaumes chaque semaine, du premier au dernier. Et ça, c'est perdu. Et j'ai des groupes que je fonde à travers une lore, disons, en Flandre et aux Pays-Bas, où on prie les psaumes par semaine, 7 jours, 150 psaumes. On commence le matin tôt et le soir tard, et si on a un peu de temps, ça fait à peu près 20 à 25 psaumes par jour. Mais dans l'ordre. Et chaque jour a sa demeure. Or, il y a une structure dans le psautier. C'est ce qu'on n'a pas vu au moment où on a réformé le psautier. Et on a fait des collages, on a pris le psaume 2, le psaume 72 et le psaume 125, et on a mis ça ensemble. Ça marche jusqu'à un certain point, mais ça casse aussi les grands arcs qui traversent le psautier. Et donc maintenant, l'exégèse elle-même reconnaît que ces arcs ont été pensés par des scribes. Quoi qu'il en soit, ce que je recommande, et nous faisons donc une fois par mois une réunion dans différents lieux, en Flandre et à Bruxelles et aux Pays-Bas, c'est une soirée où nous prions 25 psaumes, de 1 à 29, de 30. un septième du psautier. Ça dure une heure et demie. Et on fait à la manière orientale, trois psaumes. Tout le monde est assis, quelqu'un se lève, lit trois psaumes d'affilée. Et puis, tout le monde se lève pour la doxologie, tout le monde se rassied, quelqu'un d'autre se lève et lit trois psaumes, et on avance. Et après 20 psaumes, qu'est-ce qui se passe? Et on a entendu de tout. Des choses tristes, des choses joyeuses, des actions de grâce, de lamentation, individuelles, collectives, on la traverse. Un peu de sagesse, un peu de méditation sur la loi, une méditation sur l'expérience quotidienne. Et au terme, tout le monde est heureux. C'est très clair. Tout le monde doit confesser qu'il ne comprend pas tout. Mais elle n'est pas d'accord avec tout ce qu'on a prononcé. Mais l'entraînement, donc on est entraîné et tiré vers. Et la belle structure, c'est qu'on commence fondamentalement dans les psaumes par la louange. On passe à travers la supplication, lamentation, et on aboutit à la louange. Et ça, c'est une éducation de notre cœur. Nous ne savons plus ça. Parce que très souvent, nous n'avons jamais appris à louer. Or, l'homme biblique, c'est parce qu'il a su louer qu'il se lamente jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau louer. Vous voyez le mouvement? Le fondement de la prière, c'est l'alliance. Je suis dans l'alliance et je loue Dieu. Mais aujourd'hui, je vis la misère, je vis la contradiction, je vis l'exclusion. Alors je crie. Jusqu'à ce que je puisse de nouveau louer. Alors, qu'est-ce que fait l'homme moderne qui n'a pas appris à louer? C'est que il ventilise, on dit ça? Il ventile sa mauvaise humeur, son ronchonnement, son murmure. Mais ce n'est pas tourné vers la louange parce qu'il n'y a pas de louange qui a précédé. Et la Bible me réapprend à énoncer ma misère en fonction et vers ma louange. Donc il y a là une éducation à faire de notre propre cœur et retrouver le mystère de la louange. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la louange. Et saint Augustin est un des plus beaux maîtres pour nous faire comprendre ce qu'est la louange. Et les pères de l'Église en général, dans leurs commentaires de psaume, sont extrêmement subtils pour bien écouter, mais qui parle ici à qui? Et qu'est-ce qui stimule la louange? Parfois, c'est les hommes qui demandent aux anges de louer et les anges qui demandent aux hommes de louer, dans un même psaume, d'après les pères de l'Église. Il y a déjà une louange en haut, il y a une louange en bas. Alors, essayons de la rejoindre. Augustin ira jusqu'à dire, Dieu, dans le psautier, se prépare une louange. Dieu lui-même se prépare une louange. Donc, voilà la structure fondamentale de notre prière avec des paroles. Et la beauté, c'est que on voit dans la grande tradition qu'on parle de beaucoup de paroles et qu'on s'achemine vers une parole. La prière monologistos. Monologistos, ça veut dire d'une seule parole. Mono, c'est seul. Logistos, c'est du verbe. C'est exactement ce que vous faites. Si Germaine a choisi Maranatha, c'est faire aboutir tous les discours et tous les mouvements intérieurs dans une seule parole dans laquelle on persévère. Et on persévère à la manière orientale, c'est-à-dire que c'est un son beaucoup plus que des mots avec des sens. On veut faire résonner un mot dont nous savons l'intensité et la grandeur, mais dont nous ne voulons pas éplucher les sens pendant que nous méditons en silence. Et sur ce point, il répète à tous les coups, keep your mantra. Reviens à ton mantra et maintiens ce mantra. Et ce mantra est un glaive, est un fouet, est une arme qui doit tailler la tête de toutes les petites pensées qui voudraient associer, même des pensées pieuses, hein, des pensées élevées, et ouvrir l'horizon, tenir l'horizon ouvert. Et toute distraction, tout emballement, je vais vous lire deux petits textes, disons, d'une prière qui transforme. L'une est orientale, du côté de Constantinople, c'est un moment d'un jeune moine de 17 ans, qui va s'appeler Siméon, le nouveau théologien. Qui est le premier théologien? C'est Saint Jean. Qui est le nouveau théologien? C'est Siméon, au 11e siècle. Alors, voilà le jeune moine, un soir. Tandis que le jeune Siméon était en train de prier et répétait intérieurement « Oh Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » C'est la prière de Jésus dans sa forme la plus courte. « Oh Dieu, prends pitié de moi, pécheur. » C'est la prière du publicain. Dans la tradition, on va privilégier cette prière. Pourquoi? Parce que le publicain, c'est une figure d'une parabole de Jésus. Pas simplement Bartimée, qui est un pauvre dans l'Évangile, c'est un pauvre dans la parabole de Jésus, donc inventé par Jésus, exemplaire par la parole de Jésus, donc on privilégie ça. Ô Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Simplement aussi, le 12e degré d'humilité, c'est ce pauvre publicain de l'Évangile, avec sa prière. Donc, il répétait ça intérieurement, dans la nuit. Et voici que soudain, une forte lumière jaillit au-dessus de lui, de la part de Dieu. Toute sa cellule était baignée de lumière. Le jeune moine ne savait plus s'il était encore à l'intérieur de sa cellule ou au dehors, sous un arbre. Tout autour de lui, il n'y avait que de la lumière. Ce qu'on appelle une illumination. L'illumination est à l'intérieur, à l'extérieur, on ne sait plus distinguer. Il ne savait plus non plus s'il était encore de ce monde, ça va plus loin, de ce monde ou dans l'autre monde. Il n'avait plus peur de trébucher, pour un jeune moine, c'est remarquable. Il n'avait plus aucun souci mondain. C'est l'idéal de la prière, c'est d'être sans souci. Il était arrivé. Il lui semblait être devenu un avec cette lumière divine. C'est le côté intérieur. Cette lumière divine éclate à l'extérieur et maintenant il se perçoit lui-même un. Il pensait être devenu lui-même lumière et comme soustrait à la terre. Des larmes de bonheur ineffables lui jaillirent des yeux. Il n'avait pas encore eu l'expérience d'une telle révélation. Et dans son émerveillement, il ne cessait de crier à haute voix, « Seigneur, prends pitié de moi. » Kyrieles, Kyrieles, Kyrieles. Donc la prière devient plus courte que tout à l'heure. De cela, il ne se rendit compte qu'une fois qu'il était revenu à lui, bien plus tard, quand la lumière avait progressivement diminué et qu'il se retrouvait bel et bien avec son corps dans sa cellule, son cœur était encore tout rempli d'une joie inexprimable, inénarrable. Et il remarqua qu'il était toujours en train de crier à haute voix, « Seigneur, prends pitié de moi. » C'est un récit, il va y en avoir encore 5 ou 6 du même genre dans cette longue vie écrite parmi ces Tastetatos de Siméon, c'est son premier moment. Et c'est une espèce d'apologie de la prière répétée. Répétée avec foi, la prière peut provoquer cette transformation. Maintenant, ça c'est en Orient, à Constantinople, chez les Grecs. Maintenant, on passe en Occident avec saint François d'Assise. François, comblé chaque jour davantage des grâces consolantes de l'Esprit Saint, le bienheureux François mettait toute sa vigilance et toute son application à former, selon les principes nouveaux pour eux, ses fils encore inexpérimentés, et leur apprenait à marcher sans dévier sur le chemin de la sainte pauvreté et de la bienheureuse simplicité. Voilà, ça se fait toujours et il continue et il enseigne. C'est sur ce fond général que maintenant va se passer quelque chose. Or, un jour, confondu par la miséricorde du Seigneur qui répandait sur lui ses grâces, il souhaita, petite curiosité d'un fondateur, connaître ce qu'il adviendrait de lui et des siens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le supérieur général veut savoir quel est l'avenir de ma congrégation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait François? Il se retira et se plongea longuement, avec crainte et terreur, dans la contemplation du maître de la terre entière, et revoyant dans l'amertume de son âme ses mauvaises années, il répétait: mon Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Exactement la même prière que l'autre. Ils n'ont jamais pu ni connu ni copier. Notons aussi qu'est-ce qu'il fait pour savoir quoi. Il se retire dans le jeûne et le silence dans une grotte. Et on a à la Verne et ailleurs, en Italie, des endroits, mais ici, François, il a passé 3 jours à tel moment enfermé. Là, il a passé une semaine en se retirant de tout le monde. Vous voyez un supérieur général qui va se retirer comme ça pour savoir qu'est-ce que Dieu peut faire de sa congrégation où il n'y a plus de novice depuis 25 ans. C'est dire que les temps ont changé. Et peu à peu, une indicible joie et une grande suavité filtrèrent aux plus intimes de son âme. Le ravissement commença et disparurent alors les angoisses et les ténèbres qui s'étaient comme épaissies dans son âme à la pensée troublante de ses anciens péchés. Et avec la certitude du pardon complet, l'assurance lui fut donnée qu'il pouvait se reposer sur la grâce. Puis il fut ravi en extase et comme absorbé tout entier dans une lumière où s'élargissait le champ de sa vision, il put contempler jusque dans le détail tous les événements à venir. Quand cette lumière et cette suavité se retirèrent de lui, il se sentit un esprit entièrement nouveau et paraissait un tout autre homme. Voilà, 2 récits où la prière de beaucoup de paroles s'est réduite à une parole, et en insistant sur cette unique parole, on a une transfiguration qui a lieu et une illumination qui va même jusqu'à englober dans l'élargissement de l'esprit non seulement le passé, mais également tout l'avenir et donner confiance à l'homme spirituel. Voilà. J'espère qu'avec ça, parce que je vois un peu déborder le temps que j'explique pour vous, mais qu'on peut avancer dans situer aussi cette méthode de John May à l'intérieur d'une catéchèse de la prière. Et encore le dernier stade avec le Père, c'est pour ce soir, et la suite, la 3e.